Bonjour à tous ce matin. Ah, c'est bien une réponse, ça. Ça, c'est le fun. Il y en a qui aimeraient ça. C'est bien de répondre à ce bonjour-là. Bonjour aussi à tous ceux qui me connaissent un peu plus ici, que je n'ai pas eu le temps de voir avant la réunion. Et je remercie aussi le Seigneur pour mon épouse qui m'accompagne ce matin. J'aime ça être avec elle et pas seule. C'est toujours mieux de voyager. Quand on est avec notre conjoint, notre conjointe, c'est agréable et j'ai le privilège de l'avoir ce matin aussi avec moi. J'aimerais prier pour commencer. Vous pouvez aussi tourner dans Ésaïe, chapitre 24, le texte qu'on va adresser ce matin. Ésaïe, chapitre 24. J'aimerais qu'on puisse prier notre Dieu ensemble. Éternel, tu es l'auteur de tout ce qu'on a entendu ce matin, de tout ce qui a été fait par toi pour racheter un peuple qui te glorifie, qui honore un tel sacrifice, qui honore une telle œuvre. Et nous voulons aussi t'honorer par la prédication de ta parole ce matin. Celle qui vient de Dieu, les mots que l'on lit sont les tiens. Et qu'il touche nos cœurs par le ministère du Saint-Esprit dans nos vies ce matin. Et c'est dans le beau nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Vous savez, lorsqu'on visite une ville, en général, on a des attraits particuliers selon nos goûts et nos préférences qu'on veut visiter. Ceux qui vont à Manhattan, New York, veulent certainement voir les attraits qui les attirent là-bas. Chacun d'entre nous, on a voyagé, on est allé, on visite des villes et on en fait des descriptions. On y ressent des choses, même certains visitent Montréal et nous communiquent que c'est une ville chaleureuse et accueillante, etc. Et ils ont une image de Montréal selon leur visite. Comment? Mais ce matin, on va regarder le regard de Dieu un peu sur nos villes, que ce soit Longueuil ou celle où vous habitez. C'est comme si l'auteur Ésaïe prend le thème de la ville pour enseigner un message significatif pour chacun de nos âmes et il généralise un peu pour toute ville, ce qui se passe dans cette ville qu'il imagine représentant chacune de nos villes. On voit la destinée de la ville. Contrairement peut-être à un touriste qui constate le moment présent, Ésaïe voit l'avenir de cette ville, la destinée. Et ce matin, j'aimerais parler, on va le lire ensemble, mais j'aimerais parler de trois choses. La destinée, donc, de cette ville dans laquelle on est présentement ce matin à Longueuil. J'aimerais parler d'un groupe exceptionnel qui est au milieu de cette ville que Ésaïe présente, pour ensuite parler de la destinée de ce groupe, ce petit groupe présenté par l'auteur dans ce chapitre. Ésaïe, chapitre 24, verset 1. Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la face, en disperse les habitants. C'est encore un peu plus facile pour nous de s'imaginer ces choses à la lumière des deux tremblements de terre qui ont sévi à Haïti et le Chili dernièrement. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. La terre est complètement dévastée. totalement pillé. Car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est en deuil, épuisée. Le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignent les lois, altèrent les prescriptions, ils rompent l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre. Et ses habitants en portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé. Le bruit des amusements a pris fin. L'allégresse de la cithare a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs sont amères aux buveurs. La ville désertée est démolie. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues pour que le vin manque. Parce que le vin manque. Toute joie s'est assombrie. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme lors du gaulage de l'olivier, comme lors du grappillage quand la vendange est finie. Mais ceux-ci élèvent leur voix, ils poussent des acclamations. De l'ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons des chants. Honneur au juste. J'arrête ici. C'est une description de notre ville ou de la destinée de cette ville qu'on entend rarement à la radio ou à la télévision. Le prophète annonce un message ici qui n'est pas encourageant quand on le lit. À première vue, c'est le malheur. C'est la destruction, c'est la misère. Mais ce chapitre 24 s'insère dans une série de chapitres dans Ésaïe qui pointent vers l'avenir, on dirait aussi apocalyptique, semblable à un langage d'apocalypse où un thème est choisi. Ici, la terre où chacune de ces villes sur cette terre ont une destinée finale de destruction. Autant d'Israël, lorsque le prophète annonce ce message, les temps sont difficiles. Les Juifs ont perdu espoir. La gloire rayonnante du temps de Moïse au sommet de la montagne est maintenant disparue. Rien n'est glorieux en Israël et le prophète en profite pour expliquer même les réalités qui viennent. Pour non seulement ce qui va concerner Israël, mais pour toute autre ville qui va aussi vivre la destruction qui se pointe sur la ville de Jérusalem. La destruction est imagée ici par une ville qui est maintenant déserte, vide, inerte. C'est tellement différent du jardin initial en Éden, représenté par la vie, par la joie. Le jardin est transformé en un désert aride. Tous, sans exception dans cette ville, vont y goûter. On le voit, autant vendeurs, acheteurs, prêteurs, emprunteurs, quiconque, sacrificateur ou servant, esclave, tous sont concernés par cette ville, sans exception. La destruction est totale et elle est sans exception pour les habitants de la terre. La source de la solution envisagée par Ésaïe, un peu à ce chapitre-ci et au suivant, n'est pas la source du problème, n'est pas de freiner l'écologie qui détruit la terre. Plusieurs croient cela aujourd'hui. Leur énergie est là. Leur mode de vie est façonné par ça. Même si on règle le problème des eaux et même si on règle le problème de l'équilibre de la chaleur sur la planète, le problème demeure l'homme. Regardez avec moi. Verset 5. La terre a été profanée, non pas par le carbone, mais par ses habitants. Si on ne règle pas le problème au niveau de l'homme, on ne règle pas le problème. La racine, elle est là. On se moque aujourd'hui d'un discours qui annonce un jugement, une destruction sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on origine au Québec de décennies d'oppression catholique qui utilisait le message du jugement pour faire peur aux gens et pour les menacer. Mais il faut reculer plus d'une décennie en arrière pour se rappeler que l'annonce d'un jugement comme ça, d'une destruction de notre ville qui va être rasée, ne remonte bien plus loin que de ce que l'Église catholique a voulu en faire il y a quelques décennies au Québec. On peut remonter avec Noé au déluge. D'ailleurs, le texte fait référence au déluge au verset 18. Vers la fin du verset 18, il dit « Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. » C'est le même mot, la même expression que le déluge. On peut se penser en plus petit à Sodome et Gomorre. On peut penser à l'exil que les Juifs ont vécu. On peut penser à l'apôtre Pierre dans ses lettres dans le Nouveau Testament qui nous annonce cette destruction. On peut penser à l'Apocalypse qui nous en parle de long en large. La question qu'on peut se poser ce matin, donc, si on est ici, c'est comment un Dieu bon et magnifique comme on l'a chanté ce matin peut-il juger les êtres humains? Notre ère actuelle a tellement rejeté la notion d'un Dieu souverain que nous croyons aujourd'hui, en tant qu'habitants de cette ville à Longueuil, certainement, représentante de plusieurs autres villes au Québec, que c'est à l'homme de choisir ce qui est bien et mal. Laissez-moi vous dire ce qu'on retrouve dans nos journaux. Au lieu d'enligner nos désirs selon la réalité, on cherche à contrôler la réalité pour qu'elle s'ajuste à nos désirs aujourd'hui. Si on est offusqué de penser que Dieu va un jour juger le monde, la question qu'on devrait plutôt se poser, comme dans d'autres cultures, elle se pose cette question-là, pourquoi on n'est pas offusqué qu'un tel Dieu pardonne encore les êtres humains? Pour plusieurs, c'est cette question-là qui choque. C'est notre culture actuelle dans laquelle on est qui rend cette vérité d'un Dieu qui juge les hommes choquante. Car la Bible explique clairement que le jugement, au contraire, est la manifestation de l'amour et de la bonté de Dieu qui implique sa justice. Si nous, comme humains, il nous est impossible ou difficile de supporter, par exemple, un génocide avec toutes les atrocités que ça implique, et que l'on déclare ça méchant et mauvais, à combien plus forte raison un Dieu parfait et pur ne doit-il pas manifester son jugement sur la terre? Et vous savez, comme moi, pour plusieurs d'entre vous ici, que seule la croix vient résoudre cette tension. Le jugement de notre ville s'en vient à cause de la manifestation de la justice de Dieu et de sa bonté et de son amour pour garder sa sainteté et honorer le nom de Dieu comme Créateur. Vous savez, le texte donne trois raisons pourquoi, même si on voudrait l'éliminer, elles sont bien décrites là, au verset 5. La terre a été profanée par ses habitants. Trois raisons. La première, car ils ont enfreint la loi. La désobéissance, c'est dur d'y échapper, elle est là, elle est écrite. Le jugement, l'homme le mérite. On a désobéi. On a aussi altéré les prescriptions. On peut dire aussi en québécois aujourd'hui, on a fait des compromis. On fait des compromis avec les règles. C'est encore dur d'y échapper. Pas vrai? Parce qu'on est dans un siècle de compromis. Dans le domaine de la moralité, on vit beaucoup de compromis, comme à l'époque où Ésaïe parle. Le troisième problème de l'homme, ils rompaient l'alliance éternelle. Alors, il faut comprendre ici qu'une alliance, c'est un contrat à deux. C'est une entente. Si je romps le contrat, je suis en train de dire que je rejette l'autre qui faisait partie de cette entente. Rompre l'alliance ici, c'est une offense. C'est le rejet du Créateur. C'est le rejet de tout ce qu'il s'est engagé envers nous. Et puisqu'on est adorateur par création, lorsqu'on a un rejet du Dieu de l'Alliance, on se choisit un autre Dieu à la place et c'est lui qu'on adore. Pour les rationnels d'aujourd'hui, le Dieu qui a été remplacé par, c'est la raison. Leurs capacités intellectuelles sont capables de diriger la vie présente sans aucune source divine de l'extérieur, souvent. Toutefois, la Bible est claire. Lorsque l'alliance est rompue, les conséquences d'avoir rompu l'alliance sont là. Et le texte est clair dans Ésaïe, autant pour eux que pour nous. Cette ville est décrite comme très important, l'auteur prépare ce qui vient au verset 14. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de fête. Il n'y a plus de chant. Il n'y a plus de joie. Et c'est répété avec un mouvement de répétition, le rythme en hébreu est comme un marteau qui détruit de plus en plus fort un rythme régulier. Boum! La destruction avance. Plus de joie, plus de chant. Au verset 10, on lit « La ville est démolie ». Le mot hébreu pour démolie ici, c'est sans forme. Comme dans Genèse 1 et 2, la terre était sans forme. Il fallait que le Créateur vienne mouler et donner forme à la matière. Ici, la terre est sans forme. La ville est sans forme parce que lorsque le Créateur n'est plus honoré, la matière reprend, comme on dit, son état sans l'intervention de Dieu et elle perd son sens et l'origine de pourquoi elle a été créée. La même matière avec laquelle le potier a fait le vase redevient une espèce de boue inutile qui ne sert à rien. Vous savez, bien des philosophes et des penseurs aujourd'hui essaie de nous faire croire qu'il y a une solution et qu'il y a une raison de vivre sans Dieu sur terre présentement. Mais malgré leurs efforts courageux, qu'ils cherchent à bâtir sans le Créateur et son plan, la synthèse générale demeure présentement sur la planète. Conflit, abus de pouvoir, tyrans, contrôle par les riches, pauvreté extrême et souffrance. Ça, c'est la ville qui est devenue sans forme, qui est défaite. On a retiré le sens à sa vie. Mais si dans cette ville-là détruite, où il n'y a plus de fête, plus de joie, plus de chant, l'auteur nous dit qu'en plein milieu de cette ville, en pleine destruction, il y a un petit groupe. Hein? Petit groupe, au verset 14, qu'il introduit très subtilement par une expression assez neutre, mais ceux-ci, ceux-ci. Eux autres sont différents. Ils élèvent leur voix, ils poussent des acclamations, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Je dis qu'ils sont peu nombreux parce qu'on va en reparler au chapitre 25. Vous allez voir qu'ils sont peu nombreux. Mais ils sont en plein milieu de la ville et curieusement, dans la structure de son énoncé, de son enseignement, Ésaïe vient placer ce groupe-là dans le milieu de son chapitre parce qu'après le verset 16, il recommence à décrire encore plus drastiquement la destruction sur la ville qui s'en vient. Mais au plein cœur de son texte, il vient glisser subtilement ce petit groupe. Eux, ils chantent. Ils chantent au milieu du désastre. On m'a dit qu'en Haïti, lorsque les gens ont quitté leurs habitations par crainte de les reprendre, les gens allaient pour la nuit dormir dans les champs. Et au milieu des champs, les croyants se réunissaient pour chanter des louanges à Dieu, pour avoir une voix plus forte que le cri des douleurs entendues pour les gens blessés tout autour, couchés dans les champs. Quelle image qui représente dans un certain sens ce que Ésaïe cherche à nous communiquer ici, d'un petit groupe qui, malgré le désastre, la désolation et la destruction, ont un cœur rempli de vérité qui leur permet de chanter la louange et l'honneur à l'Éternel. C'est tout à fait divin. C'est miraculeux. C'est la trace de Dieu. La trace humaine ne peut pas produire une telle situation. D'aussi loin que de l'Est ou de l'Ouest, tous ont un seul chant, un seul cœur qui monte vers l'Éternel. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la circonstance, mais qui sont-ils? Notez au verset 6, qui est la continuité du chapitre 25, « L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin. » On va y revenir. Mais je n'ai pas le bon verset ici, je m'excuse, mais on voit que ce sont les croyants, ceux qui appartiennent à l'Éternel, qui sont capables, au milieu de la ville qui est en destruction, d'avoir ce chant dans leur cœur qui monte vers l'Éternel. Pourquoi cette joie? Honneur aux justes! Ils célèbrent un Dieu qui est juste. En plein cœur de la justice de ce Dieu qui est manifesté tout autour de lui, tout autour d'eux. Quand est-ce que dans les Écritures, Dieu a le plus grandement manifesté sa justice? C'est lorsque Jésus est mort à la croix. Paul nous dit dans Romains 3 que tout en étant juste, il a agi pour que ceux qui étaient injustes puissent devenir justes. On ne peut pas s'imaginer le Fils recevoir la colère du Père, parce que la destruction de la ville, c'est rien à comparer la destruction du péché que Dieu a subi par Jésus-Christ à notre place sur la croix. Pour que justice et amour de Dieu puissent éclater pour sa gloire, pour l'éternité. Et lorsqu'on comprend cette réalité-là, c'est pour ça qu'on peut être en plein cœur d'une ville qui est en train de se détruire de tous côtés, de toutes parts, puis on est là en train de chanter. Ouais, c'est tout doux, hein? On ne voit pas que la ville est en destruction encore. Puis on ne souffre pas beaucoup, mais amen. Il y a quelque chose de miraculeux qui est là. Dieu s'est choisi un peuple qui fait qu'on peut chanter. Peut-être que vous avez chanté par routine ce matin. Ésaïe est en train de nous dire ce matin, ce n'est pas par routine. Il nous ramène à l'origine de la réalité de la perspective de notre ville lorsqu'on la regarde dans sa destination finale. Ce que tu es en train de faire la semaine passée, la semaine prochaine, tu peux être en plein milieu de tout cela et te mettre à chanter. Honneur au juste qui est devenu injuste pour que je puisse être déclaré juste. Vous savez, souvent, si on ne vit plus cette joie associée, lisons-la tout de suite, tiens, allons au chapitre 25, verset 6, qui est le contenu du chant chanté par le petit groupe au chapitre précédent. Et je vous saute les détails, question de temps, mais j'arrive au verset 6. « L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne » cette nouvelle ville représentée par le sommet de la montagne pour faire l'allusion à l'Exode, le premier Exode avec Moïse. Il y a un second Exode qui s'en vient. Des gens de tous les peuples cette fois-ci. Avec un festin de mets succulents. Des brownies au chocolat. Avec la sauce dessus, la crème glacée. Il y a de ces desserts quand on va dans les restaurants avec les photos, hein? Mon ami! Ésaïe représente la joie d'être dans la présence de ce sauveur comme ceci. Comme un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Alors j'ai d'autres qui disent « Wow! » Ceux qui connaissent le vin, hein? Vieillir. De mets succulents pleins de moelle. Ça, c'est le gras. Plus de cholestérol. On va pouvoir croquer là-dedans, en pleines dents. Des vins vieux clarifiés. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes. On ne peut pas s'imaginer cette scène-là. Il enlève tout ce qui faisait couler les larmes. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici notre Dieu. C'est en lui que nous avons espéré. C'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Il se peut ce matin, par exemple, que tu ne ressens plus cette joie-là. Eh bien, l'ennemi est tellement subtil qu'il nous voile l'œuvre du salut qui a été fait à notre égard. Et il nous fait adorer d'autres idoles. En pensant que de ces idoles-là, on allait recevoir quelconque joie. Mais les idoles donnent toujours à la fin déception et vide. Le vin qu'ils buvaient dans la ville n'était plus. Les fêtes qui étaient là dans la ville ne seront plus. Ce en quoi les hommes espèrent trouver un réconfort et un sens et un espoir se termine, et pour plusieurs, il se termine même avant la fin. Mais ils cherchent vers d'autres dieux, et nous aussi, on est tentés des fois d'espérer dans nos maisons, dans nos gains, dans nos familles, dans nos enfants, des choses bonnes ou des choses mauvaises, mais qui viennent remplacer l'œuvre que Dieu a faite pour nous à notre place. Et là, la joie disparaît. Comment est-ce qu'on s'aperçoit que quelque chose est devenu une idole? Pense à la réaction que tu as lorsqu'on te l'enlève. Est-ce qu'il y a de l'irritation, de la colère, de l'amertume, de la haine, des rivalités? C'est ton idole. Tu n'es pas capable de t'en défaire. C'est ton Dieu. Tu penses qu'à travers lui, il va calmer tes peurs, il va nourrir tes envies. Il y a une seule chose qui comble le cœur. Et c'est ce qui fait chanter ces gens-là en plein milieu de la destruction. C'est un sauveur qui est venu essuyer leurs larmes et qui va passer l'éternité avec eux dans une ville fantastique où le péché ne sera plus et nous aurons la gloire de Dieu en permanence sans aucun voile pour nous le voiler. Amen. Gloire à Dieu, oui. Et je pense à l'exemple de ce jeune couple marié depuis quelques années. Et le couple commence à avoir des difficultés à mal aller. L'homme commence à se jeter vers la pornographie. La femme découvre ces choses-là, le conflit éclate, la tension est à son apogée et le sentiment qu'on ne peut plus reconstruire commence à s'installer. Un peu d'historique avant leur mariage. Ce jeune couple avait eu des relations sexuelles avant le mariage. Elle était tombée enceinte. Lui avait dû quitter ses études pour accepter un salaire plus bas pour subvenir à cette nouvelle famille qui était subitement créée. Il vivait en lui un sentiment de culpabilité parce que, à cause des revenus plus faibles, il n'arrivait pas à réarranger ce passé qu'il avait lui-même, en son sens, détruit. Il aurait voulu donner à sa famille ce qu'il ne peut pas, et ce sentiment de peur, de culpabilité, de non-contrôle créait un stress, et il allait soulager ce stress-là par des faux fuyants. Mais dans la grâce de Dieu, ce couple rencontre un conseiller dans leur église qui commence à faire l'examen du cœur. Et il y voit les idoles qui deviennent évidentes et qui ressortent de son cœur. Cet homme et cette femme commencent à les confesser. Ils retrouvent la joie de leur salut. Surtout en étudiant et en considérant les passages où Dieu démontre dans son histoire avec son peuple qu'il a rebâti à partir de situations où on a appelé ça des ruines. Dieu reconstruit très souvent dans l'histoire à partir des ruines. Amen. Regagner par la puissance de la grâce et de ce merveilleux Sauveur. Il a abandonné ce mensonge qui lui faisait croire que tout était fini, qu'il avait péché au-delà de la limite permise. Et avec une bonne application des Écritures, adressant au cœur de la situation de ce que ces gens vivent, ils ont pu de nouveau revivre la puissance et la beauté de l'Évangile en plein cœur de la destruction. C'est la puissance de Dieu. C'est ça qui fait chanter, mes amis. Ça fait chanter, là, même pas d'instrument, même avec rien, ça fait chanter. J'aimerais vous dire sur une base personnelle aussi, dans les dernières années, il me semblait qu'il y avait une certaine joie qui n'était pas là. Et je le vivais en relation même avec mon épouse. Et Dieu a mis en lumière quelque chose dans mon cœur où le manque d'honneur qui n'était pas versé envers mon épouse originait d'une idole dans mon cœur subtile qui était là, sur un égocentrisme centré sur moi, qui me faisait voir mon rôle et mes tâches plus importants que toute autre chose. Et cette idole-là, tranquillement et subtile dans ma vie, m'empêchait d'apprécier et d'honorer la personne que Dieu avait placée à mes côtés. Lorsque j'ai vu ça, ça fait mal. Mais on a confessé ça, j'ai confessé ça. Et je veux aujourd'hui honorer par cette écoute, ce service et ces actions-là, parce que je vais retrouver la joie. J'ai retrouvé la joie de l'Évangile. Parce que quand tu es capable d'honorer une autre personne, c'est que tu te souviens qui tu es. Pourquoi c'est plus facile pour les humbles de se tourner vers Dieu? Parce qu'ils réalisent que tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont capables de travailler par eux-mêmes. Juste un court témoignage personnel pour dire que c'est la voix qui mène à la joie et qui fait chanter comme on le voit ici. La destinée de sa ville, on l'a lu. Et je termine tranquillement avec ce principe ce matin. Il y a un banquet qui s'en vient. Vous savez, on a tendance à l'oublier quand on est confortable. Il suffit d'enlever quelques éléments confortables dans nos vies pour qu'on se remette à penser au banquet qui est à venir, pas vrai? Enlève les idoles. Confesse-les au Seigneur. Reviens à l'auteur de ce salut merveilleux qui est venu essuyer les larmes, enlever les péchés et déposer sa justice en toi par l'œuvre de Christ à la croix. Pense à ce banquet aussi. À venir. Frères et sœurs, avons-nous oublié ce banquet-là? Je me souviendrai toujours d'un Roumain que j'ai rencontré 6 mois après la chute du mur en Roumanie. Et c'était son premier voyage en dehors de la Roumanie. On était à Paris, dans la région parisienne ensemble. Et il m'a dit, François, est-ce que les chrétiens en Europe et en Amérique attendent encore le retour du Seigneur? Pour lui, le contraste était frappant. Sous la domination des tyrans en Roumanie, le peuple chrétien réuni, leur joie était quoi? Qu'est-ce qu'était leur joie? Le banquet à venir. J'aimerais le dire en québécois, je ne sais pas comment ça va sonner ici, mais le party! Amen. Le vrai party s'en vient! Et quand on chante dimanche après dimanche, ça dit, on a enfin le Seigneur en qui on avait espéré. Mais il faut le chanter dès maintenant, en plein milieu, au cœur de cette ville, pour que tout le reste de la ville de Longueuil se demande qu'est-ce qui se passe. Comment vous faites? Vous avez le cancer, vous avez des pertes financières, vous avez des épreuves et les choses ne font que s'empirer pour plusieurs et on est là en train de chanter. Honneur au juste. Honneur au juste. Vous savez, ils ne louent pas Dieu dans le texte pour leur santé, ni pour leur famille, ni pour leur maison, ni pour leur excellent travail, ni pour les économies qu'ils font. Savez-vous pourquoi ils sont en train de louer Dieu? C'est en lui que nous avons espéré. Et c'est lui qui nous a sauvés. Soyons dans l'allégresse. C'est la source de la vraie joie. C'est la source de la vraie joie. Vous savez quoi? Je termine avec ceci. Lorsqu'on lit la théologie du Nouveau Testament, Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire dans la Nouvelle Alliance. Pour nous, là, qu'on a célébré ce matin par le repas du Seigneur, il nous a dit quoi? Le party, bien qu'il est à venir, il est déjà commencé. Ça ne paraît pas du tout ce matin. Je suis honnête avec vous, là. Ça ne paraît pas. Je ne sens pas la fête qui doit nous habiter à cause de la destruction qui s'en venait pour nous et la Bible qui nous a dit, vous en avez été arrachés pour aller dans la nouvelle ville que Dieu est en train de construire. Puis Jésus nous dit, le party est déjà commencé. Une réaction, s'il vous plaît. Même si je suis à Longueuil. Hey! Il faut se réjouir. Quand on va chanter ce chant dans quelques secondes, l'équipe peut s'avancer s'il veut. J'aimerais qu'on exprime la joie de l'Évangile qu'on a reçu. C'est la fête, les amis. Tout va se détruire. Vous avez rénové dernièrement. Ça va être fini! Vous avez passé 2 heures à mettre un OG comme ça, là, au millimètre. Ça va être fini, Ésaïe nous dit. Mais c'est pas grave. Pourquoi? On va être éternellement avec le roi dans le banquet. Amen! Là, ça commence. Je vous ai fait débarquer un peu de votre univers pour qu'on réalise qu'est-ce qu'on a lu ce matin. Frères et sœurs, prions. Oh Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Donne-nous de confesser tout ce qui est à confesser pendant le chant pour qu'on puisse réaliser la beauté de Jésus-Christ. Il est devenu péché pour que je puisse devenir justice de Dieu. Gloire à l'Évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.